Alors, ça fonctionne là ? Moi, je n'entends pas. Aux origines du féminisme, donc, il y a certainement beaucoup plus que les trois femmes dont je vais vous parler ce soir, bien sûr. Mais j'ai décidé de faire ce choix draconien de trois, et seulement trois, femmes remarquables, parmi de quantité d'autres possibles, en utilisant le filtre de trois critères qui m'ont semblé particulièrement pertinents. Ces femmes, pour moi, remarquables, devaient d'abord avoir été un peu délaissées par nos mémoires oublieuses, qui se sont souvent laissées envahir par des étoiles filantes. Deuxièmement, avoir vécu principalement de leurs plumes. Et troisièmement, avoir fait, par leurs actes et leurs écrits, avancer la cause des femmes. Ces trois femmes remarquables, je vais vous les présenter dans un ordre tout simplement chronologique, puisque, après tout, nous allons voyager ensemble ce soir dans le temps, dans la littérature et dans l'histoire, et que la chronologie est, il me semble, un véhicule tout à fait confortable pour ce type d'aventure. Pour rencontrer la première femme remarquable que j'ai sélectionnée pour vous ce soir, il nous faut faire un grand bond dans le temps, en arrière, de plus de 6 siècles pour atteindre la seconde moitié du XIVe siècle, vers la fin du Moyen-Âge. Christine de Pisan, donc, autour de 1364, autour de 1430, on n'a pas les dates exactes, une femme de lettres et de parole. Née à Venise vers 1364, donc, Christine arrive en France à l'âge de 5 ans. Son père, Thomas de Pisan, Tommaso di Benvenuto da Pisano, astrologue et médecin réputé dans toute l'Europe, ayant été appelé par le roi de France Charles V à ses côtés. Élevée à la cour royale française, elle apprend à écrire et lire le latin, le français et l'italien, sur l'insistance de son père, bien que cela ne soit pas du tout l'usage de l'époque. Et c'est donc dans une atmosphère à la fois de curiosité scientifique et intellectuelle et de faste royale que se déroule son enfance. À 15 ans, en 1379, Christine épouse un gentilhomme picard, Étienne Castel, fils d'un valet de chambre du roi, qui obtient dès l'année suivante la charge de notaire et secrétaire du roi. Hélas, le roi protecteur meurt en 1380, et puis, peu de temps après, l'astrologue, le père de Christine. Hélas encore, en 1390, c'est le tour d'Étienne, son époux, qui succombe à la peste. Et elle se retrouve seule à 25 ans avec ses 3 enfants, sa mère et ses 2 jeunes frères à sa charge. Et là je la cite, Je fus à bon droit pleine d'amertume, regrettant sa douce compagnie et la joie passée qui ne m'avait duré plus de 10 ans. Ne bénéficiant plus de la protection royale, puisque le nouveau roi Charles VI, qui a succédé à son père à la tête du royaume, n'avait plus toute sa tête, justement, Christine dut trouver une solution pour survivre, d'autant plus que des créanciers surgissent de toutes parts, l'obligeant à entamer des procès interminables et très coûteux. Déjà, en 1390, elle avait participé à un concours poétique, où ses poèmes avaient rencontré un certain succès. Elle décide donc de faire de l'écriture son métier pour payer ses avocats et permettre à sa famille de survivre. Et c'est ainsi que Christine de Pisan sera pour la postérité une des toutes premières femmes écrivaines de l'histoire, en même temps sans doute qu'une des toutes premières féministes. Je cite Michel Sardes qui dit qu'avec elle, la parole féminine détournée des dames courtoises devient résolument féministe, car elle attribue l'inégalité intellectuelle entre hommes et femmes non à la nature, mais à l'éducation, et aux représentations d'elles-mêmes fournies aux femmes par le discours misogyne dominant, et en particulier, bien sûr, celui de l'Église. Mais pour se sentir vraiment capable de composer des ouvrages, il lui faut retourner à ses chères études. Ne lui suffisent pas, en effet, avoue-t-elle, les ruminations du latin et les parlures des belles sciences et diverses sentences et polies rhétoriques que j'avais entendues le temps passé au vivant de mes amis disparus, père et mari. Tout ainsi comme un homme qui a passé par périlleuses voies se retourne en arrière, je me tournais au chemin où ma propre nature m'incline, c'est à savoir l'amour de l'étude. Ah donc, je clôt mes portes et vous happez ces beaux livres et volumes, écrit Christine dans sa belle langue. Puis, plus elle écrit, plus son style s'affirme et ses sujets d'intérêt se diversifient. Donc, je me prise à forger jolies choses, au commencement plus légères, et tout comme l'ouvrier qui de plus en plus en son œuvre devient habile, comme plus il la fréquente, toujours étudiant diverses matières, mon sens de plus en plus s'imbibait de choses étranges, amendant mon style en plus grande subtilité et plus haute matière. Ainsi, de 1399 à 1405, soit en à peine 6 ans, Christine va écrire pas moins de 15 volumes. Ses ouvrages sont enluminés de délicates miniatures et vendus aux riches amateurs. Parmi ses clients, le duc de Berry, la reine Isabeau, le duc d'Orléans, Charles d'Albret, connétable de France. Mais Christine est avant tout une poétesse. En 1399, elle dit avoir écrit déjà pas moins de 100 ballades. Rondeaux, virelets, ballades, complaintes, pastourelles, aucune des formes à la mode qu'elle admirait chez Guillaume de Machaut, par exemple, ne lui était étrangère. « Jamais de moi nul ne prendra la cure, puisqu'est perdue ma douce nourriture, car d'autre rien nul je n'ai envie, hors de mourir, de plus vivre n'est cure, quand s'il est mort qui me tenait en vie. » L'épître au Dieu d'amour lui permet en 1399, donc juste au tournant des 14e et 15e siècles, de prendre part activement et de manière même virulente, polémique, à la fameuse querelle du roman de la Rose. Elle prend parti en faveur de Guillaume de Loris, l'auteur, comme vous le savez, de la première partie de cet ouvrage, vers 1245, dans la pure tradition de l'amour courtois et de la fine amorce contre Jean de Meung, clerc obtus, qui, une cinquantaine d'années plus tard, vers la fin du XIIIe siècle, se permettra de poursuivre le roman, mais dans une veine très misogyne, mêlant tous les lieux communs sexistes de la pensée cléricale et de l'esprit gaulois, usant d'un vocabulaire volontairement ordurier, voire obscène, complètement à contre-pied de l'esprit originel. Passionnée, révoltée, Christine répond, sans mâcher ses mots, mais sans se répartir de son humour, au stupide réquisitoire contre les femmes de ce docte universitaire posthumement soutenu par une foule de partisans. Qu'il me soit imputé comme folie, arrogance ou présomption d'oser, moi, femme, reprendre et contredire un auteur si subtil, quand lui, seul homme, osa entreprendre de diffamer et blâmer sans exception tout un sexe. En 1401, elle compose ainsi le dit de la Rose, où elle défend tout à la fois la cause courtoise et la cause féministe. Le débat fait telle sensation que Christine devient rapidement célèbre dans toute l'Europe. Cette femme qui n'a pas craint de braver l'université, ce monde interdit aux hommes, interdit aux femmes, pardon, et qui l'écrase de son mépris. La reine de France Isabeau prend son parti, le duc de Milan l'invite en Italie, le roi Henri V propose même de l'accueillir en Angleterre. Même si l'imprimerie n'existe pas encore, bien sûr, Donc si la diffusion de ces ouvrages demeure très confidentielle, puisqu'ils sont copiés à la main, un faible nombre d'exemplaires, les revenus qu'elle tirera de cette activité lui permettront cependant de vivre et de faire vivre sa famille. Et voilà donc Christine, historiographe, chroniqueuse et panégyriste royale, travail qui était jusqu'alors réservé aux moines de Saint-Denis, et elle réalise ainsi qu'elle est capable de s'intéresser à des domaines auxquels jusque-là seuls les hommes avaient accès. Fort et hardi cœur me trouvait, dont m'ébahit, mais j'éprouvais, que vrai homme fut devenu. C'est donc de politique qu'elle va se préoccuper en 1410, en pleine guerre dite des Armagnacs et des Bourguignons, dans la lamentation sur les maux de la guerre civile, et puis dans le livre des faits d'armes et de chevalerie. Et surtout de 1412 à 1414 dans le livre de la paix, où elle manifeste clairement que sa lutte de femme est une lutte pour la paix, la concorde et l'harmonie, contre les forces de destruction et de violence. Et puis dans le livre de la Cité des Dames, 1405, elle évoque le personnage de Sémiramis, inspiré d'un conte de Boccace, personnage qui lui permet de glorifier la femme seule et autonome que représente alors la veuve. Raison, justice et droiture, que vous voyez ici avec des couronnes sur le dessin, il demande à la poétesse de les aider à réaliser une cité où seraient abritées les femmes dépourvues de toute protection. Donc plus d'un siècle avant Thomas More, déjà une utopie et qui plus est, une utopie féministe. De cet ouvrage, elle va tirer le trésor de la Cité des Dames, appelé aussi Livre des Trois Vertus, qu'elle offre à la jeune dauphine Marguerite de Bourgogne, la fille de Jean sans peur, en novembre 1405, et où elle propose une sorte de traité de l'éducation de la femme, autant pédagogique que sociologique, incitant les femmes à se prendre en charge et à se défendre elles-mêmes sans attendre de quiconque le secours. Et pour cela, elle les incite à s'instruire, car c'est l'ignorance qui va faire d'elles des victimes. Je la cite. « Et pour ce que vous avez besoin d'être armés de bon sens contre ces pestilences et toutes autres qui advenir vous peuvent, il nous plaît de vous admonester de ce qui vous peut être valable. » C'est-à-dire l'instruction. Observatrice sensible et éclairée de la société de son temps, elle ne cesse de dénoncer les nouveaux rapports de force qui s'établissent entre les hommes et les femmes, au détriment de ces dernières, déplorant la fin de l'esprit chevaleresque, puisqu'à présent, le chevalier a cessé de défendre le plus faible. Je conclus que tous hommes raisonnables doivent femmes priser, chérir, aimer, elle de qui tout homme est descendu. Et ainsi que l'écrit Régine Pernoud, qui est une de ses biographes, c'est toute une esquisse de la société qui ressort de ses ouvrages. Ce qui est, ou ce qui pourrait être, si la voix des femmes y était mieux entendue. Enfin, après un silence de 11 ans, puisque en 1418, elle s'est retirée dans l'abbaye de Saint-Louis de Poissy, où sa propre fille était religieuse, Christine reprend la plume pour saluer en 448 vers pleins d'émotion et d'enthousiasme le courage et les hauts faits de Jeanne la Pucelle, qui dans la même année 1429 parvenait à libérer Orléans du siège anglais en mai et faisait couronner Charles VII à Reims en juillet. Une fillette de 16 ans, n'est-ce pas chose hors nature ? À qui armes ne sont pesants, et devant elles vont fuyant les ennemis que nul n'y dure. Jamais parler nouîmes de si grands merveilles. Voici femme, simple bergère, plus preux qu'onque homme fut à Rome. Et quel honneur au féminin sexe. L'an 1429 reprit à luire le soleil. Et si on ignore la date exacte de la mort de Christine de Pisan, c'est l'année 1430 qui est le plus souvent citée. Ce qui semble certain, c'est que ce Didier de Jeanne d'Arc est son ultime texte. Espérons seulement pour elle qu'elle soit morte avant que sa jeune héroïne, ce rêve devenu réalité, ne soit partie en fumée. Alors je vous propose à présent d'opérer un nouveau saut dans le temps, de près d'un siècle et demi cette fois, pour découvrir notre seconde femme remarquable de ce soir, Marie de Gournay, 1565-1645, une femme savante. Début 1588, c'est-à-dire 8 ans après la première publication de ses fameux essais, Michel de Montaigne, 1533-1592, fait la connaissance de la toute jeune Marie Le Jard. Née le 6 octobre 1565, elle a juste 22 ans, alors que Montaigne en a 55. Il la rencontre à Paris, où il est venu d'une part rendre compte d'une mission que lui a confiée Catherine de Médicis, et d'autre part surveiller la sortie de la nouvelle édition, la quatrième en fait, de son ouvrage, ses fameux essais, chez un éditeur parisien. La reine-mère avait en effet demandé à l'ancien maire de Bordeaux de tenter de persuader Henri de Navarre, le futur Henri IV, d'accepter de se faire catholique de façon à pouvoir succéder un jour à Henri III, le roi actuel, qui n'a pas d'enfant. On sait que cette mission a échoué, puisque Henri de Navarre n'abjurera finalement le protestantisme que 5 ans plus tard, en 1593, pour devenir roi de France l'année suivante, puisque, vous vous en souvenez bien, Paris vaut bien une messe. Marie profite de ce séjour parisien de son maître à penser pour le rencontrer, et elle le stupéfie littéralement par sa connaissance de son œuvre et la pertinence de ses remarques. Cette jeune fille de 22 ans remet complètement en question les idées reçues de l'époque sur les femmes, idées auxquelles jusqu'alors n'échappaient pas non plus le Sénèque français. En effet, alors que les filles de la Renaissance ne sont généralement pas cultivées, l'enseignement étant alors strictement réservé aux garçons, et malgré l'opposition de sa mère elle-même, Marie a appris secrètement à lire et à écrire, elle connaît le latin et des rudiments de grec qu'elle apprend toute seule en comparant des textes originaux avec les traductions qu'elle a à sa disposition. À 20 ans, elle découvre les fameux essais qui la transissaient d'admiration, dit-elle, selon ses propres mots. Et lorsqu'elle apprend que Montaigne est à Paris, elle envoie aussitôt une lettre chez lui, lui exprimant l'estime qu'elle faisait de sa personne et de ses livres, et dès le lendemain, il vient lui rendre visite. À l'automne de cette même année 1588, Montaigne, très affaibli par la maladie et un bref séjour à la Bastille en juillet, accepte l'invitation de Marie en son château familial de Gournay-sur-Aron, dans Picardie, non loin de Compiègne, à environ 70 km au nord de Paris. Il va y séjourner près de 3 mois, passant ses journées à dialoguer avec la jeune érudite, noircissant les marges de sa toute neuve réédition des essais, de remarques, ajouts, notations, ce qu'il appelle lui-même ses allongailles, en vue déjà d'une réédition future, son œuvre étant dans son esprit, vous le savez, ce qu'on appellerait aujourd'hui un « work in progress », un travail en cours, un chantier permanent. Il est probant qu'ils ont travaillé ensemble au moins sur les chapitres 22 et 23 du livre 1 et sur le chapitre 21 du livre 2. L'écriture de Marie elle-même est parfaitement reconnaissable sur ces pages-là de son exemplaire. Cet exemplaire fameux, dit de Bordeaux, et dont on peut voir ici quelques-unes de ces pages annotées, a été donné par Madame de Montaigne au Feuillant de Bordeaux, puis à la Révolution, et passé à la bibliothèque de la ville dont Montaigne avait été maire. Alors, s'est-il passé quelque chose entre eux? Autre chose que ces séances de travail, ainsi que d'aucuns le suggèrent, nous ne le saurons jamais, et cela importe en vérité assez peu, mais ce qui est certain, c'est que le grand personnage en question la portait en très haute estime, ainsi que le montre l'éloge qu'il lui consacre au chapitre 27 du livre 2 de ses essais. Je cite Montaigne. Si l'adolescence peut donner présage... Pardon. Montaigne. Si l'adolescence peut donner présage, cette âme sera quelque jour capable des plus belles choses. La sincérité et la solidité de ses mœurs y sont déjà. Son affection vers moi plus que surabondante. Le jugement qu'elle fit des premiers essais, et femme, et en ce siècle, et si jeune, et seule en son quartier, et la véhémence fameuse dont elle m'aima et me désira longtemps, sur la seule estime qu'elle en prit de moi, avant m'avoir vu, c'est un accident de très digne considération. Or on sait que Montaigne était assez peu libéré des préjugés de son époque sur ce plan-là, et qui n'était pas très favorable à l'instruction féminine. Il a des mots assez durs vis-à-vis de sa propre fille même. Et dans ce même éloge, Montaigne lui-même avoue d'ailleurs qu'il aime Marie beaucoup plus que paternellement, je le cite aussi, et il ajoute « Je ne regarde plus qu'elle au monde ». Voilà qui est, il me semble, suffisamment éloquent. Toujours est-il qu'il en fait, selon sa propre expression, sa fille d'alliance. Adoption autant affective qu'intellectuelle et en tout cas suffisamment officielle pour que le philosophe, une fois décédé en 1592, sa veuve, Françoise de la Chassaigne, appelle Marie à ses côtés, ainsi qu'elle s'était engagée auprès de Montaigne, pour lui remettre l'exemplaire des essais sur lequel ils avaient travaillé ensemble en 1588, aux fins de publication d'une cinquième édition augmentée. Cette édition, qui paraîtra finalement en 1595, sera augmentée non seulement des ajouts de Montaigne lui-même, pas loin de 1000 allongeailles, comme il les appelait, mais aussi de ceux de Marie, et surtout d'une préface sur les essais de Michel, seigneur de Montaigne, par sa fille d'alliance, de 10 feuillets. Son désir de lecture, écrit sa biographe, rejoint le désir d'écriture de Montaigne, aussi insatiable. Le souvenir des conversations de l'année 1588, les lettres de Montaigne qu'elle possède encore, et 6 années de relecture constante des essais dans leurs différents états, lui donnent la force de mener à bien ce travail. Marie a reçu la charge de fixer ce texte insaisissable. Elle va consacrer à cet énorme travail éditorial presque toute l'année 1594, à déchiffrer les notes manuscrites dans les marges et sur des feuillets volants insérés entre les pages, à recopier tout ce matériau, à dialoguer avec l'éditeur libraire Abel Langelier et l'imprimeur Delas, à corriger les épreuves imprimées, à rédiger la fameuse préface. Mais Marie ne va pas en rester là. En effet, depuis sa rencontre avec son père spirituel, elle s'est, vous vous en doutez bien, mise à écrire elle-même. Et dès 1594 paraît la première édition de son Promenoir de Monsieur de Montaigne par sa fille d'alliance, recueil éclectique abritant un récit traitant de l'amour dans l'œuvre de Plutarque, une traduction maison du livre 2 de l'Énéide de Virgile et pas moins de 65 poèmes qu'elle a rassemblés en un bouquet. Pour se consacrer entièrement à sa mission et au souvenir de Montaigne aussi peut-être, elle refusera toujours le mariage. Avant elle, en 1586, une autre jeune lettrée, Catherine Desroches, avait répondu à une demande en mariage ces mots superbes. « Vous devriez savoir, monsieur, que je ne me sentirais pas assez libre si je causais la servitude d'un autre. Ne désirant pas de serviteur, je ne demande ni maître, ni compagnon. » Et Marie est de cette trempe-là, exception tout à fait remarquable au XVIe siècle, cela va sans dire, et comme elle l'écrit, sans modestie superflue, à Montaigne, « Il faut quitter le chemin frayé qui veut suivre le droit chemin. Les grands esprits ont toujours des extravagances hors d'usage, et il ne faut pas s'étonner si les belles et fortes âmes ne peuvent, se peuvent si mal assujettir aux règles des entendements communs. Le philosophe belge Just Lips lui écrit en mai 1593 « Noble Vierge, mon âme brûle de te voir et te parler. Je t'aime, ô Vierge, mais ainsi que j'aime la sagesse, chastement. Fais-en de même pour moi, et si tu as perdu un père, considère-moi comme un frère. » Et le lettré napolitain Capaccio écrira en 1608 au sujet de Marie « Posséder une bonne mémoire. Pouvoir écrire d'innombrables choses pourra être donné à une femme au tempérament plein de finesse. Mais faire preuve de jugement, mettre à nu les obscurs détours de l'esprit, exprimer librement si quelque chose a été mal ou bien exécuté, se situe au sommet de l'activité de l'esprit. Elle juge si bien de ces choses en utilisant le grec que les hommes les plus savants sollicitent son avis. Et en latin, elle excelle tellement que l'on affirme que peu d'hommes peuvent accéder à cette clarté qui est la sienne. » Poésie, philosophie, rhétorique, traduction, rien n'échappe à cette gourmande de savoir, à cette assoiffée de connaissances. Sa biographe, Michel Fogel, ajoute que Marie a voulu donner son avis sur tout. L'actualité politique, la pratique religieuse, les relations sociales, le destin de la poésie, l'évolution de la langue française, et qu'elle a utilisé tous les genres d'écriture, romans d'aventure et d'amour, traductions, poèmes, pièces de circonstances, traités, pamphlets. De 1619 à 1623, entre les rééditions des essais et ses propres écrits, chaque année, systématiquement, le nom de Marie de Gournay figurera sur un ouvrage imprimé. En 1622, Marie publie « Égalité des hommes et des femmes », petit texte d'une trentaine de pages qui reprend des éléments d'une dissertation qui était déjà présente dans le Promenoir et qu'elle dédie à la jeune reine Anne d'Autriche, épouse de Louis XIII. Elle ne s'y montre pas ultra-féministe au point d'exagérer dans le sens inverse, comme ont pu le faire certaines, puisqu'elle écrit notamment La plupart de ceux qui prennent la cause des femmes contre cette orgueilleuse préférence que les hommes s'attribuent leur rendent le change entier, renvoyant la préférence vers elles. Moi qui fuis toutes extrémités, je me contente de les égaler aux hommes, la nature s'opposant autant à la supériorité qu'à l'infériorité. Et déjà, dans la préface des essais, Marie avait exploré cette problématique. Bienheureux es-tu, lecteur, si tu n'es pas d'un sexe qu'on est interdit de tous les biens, l'interdisant de la liberté et lui soustrayant le pouvoir, afin de lui constituer pour vertu la seule béatitude, ignorer et souffrir. Et plus tard encore, en 1626, elle va reprendre ce texte en le modifiant, ce texte de l'égalité des hommes et des femmes, en le modifiant sous le titre « Le grief des dames », ce qui la désigne à nos yeux comme une des toutes premières théoriciennes de la revendication féminine. Ce texte majeur est pourtant trop peu connu, à mon goût. Sa biographe la résume ainsi. Égale des hommes dans cette manifestation de la nature qu'est le désir, les femmes leur sont soumises par les conventions sociales qu'on leur a imposées. Et ce qui n'est pas sans rappeler cette phrase de Montaigne qui se situe au chapitre 5 du troisième livre des essais. Les femmes n'ont pas tort du tout quand elles refusent les règles de vie introduites au monde, d'autant que ce sont les hommes qui les ont faites pour elles. Alors ça c'est un peu surprenant chez Montaigne. Et donc on se pose la question, lequel des deux aura influencé l'autre. Depuis 1619, Marie de Gournay bénéficie d'une pension annuelle allouée par la reine régente, Marie de Médicis, grâce qu'aucune autre femme de lettres n'avait jamais obtenue jusqu'alors. Dans ces années 1620, l'excellent poète Théophile de Viau avait connu des ennuis très graves qui lui valurent le cachot et même indirectement la mort, puisqu'il est mort suite à une maladie qu'il avait contractée dans ce cachot. Il avait des ennuis très graves avec un jésuite particulièrement redoutable, le tristement célèbre père Garas, qui dans un pamphlet, lui aussi tristement célèbre, La doctrine des beaux esprits de ce temps ou prétendu tel, dénonçait ces libertins qui, comme Théophile ou Guillaume Colté ou Nicolas Frénicle, emplissaient leur poésie de ce que Garas considérait comme des blasphèmes et des impiétés, et traitant ces poètes d'ivrognes, débauchés, sodomites, libertins, athéistes et autres noms d'oiseaux. Or, Colté et Frénicle, précisément, appartenaient à un petit cénacle qui se réunissait, je vous le donne en mille, dans la chambre de Mademoiselle de Gournay. Alors, n'allez pas fantasmer en imaginant des parties fines dans cette chambre, ce n'était qu'un petit salon, comme certaines dames en tinrent au XVIIe et XVIIIe siècle, Madame de Rambouillet, Ninon de l'Enclos, Madame du Deffand, Julie de l'Espinasse, et j'en passe. Et le salon de Marie, d'aucuns le nommaient précisément l'Académie des beaux esprits, autrement dit, des esprits forts, c'est-à-dire des athées, incroyants, irréligieux. Et on ne s'en étonnera pas trop quand on aura lu ces vers de notre ami, tiré d'un poème autoportrait publié dans L'ombre de la demoiselle de Gournay, un très très gros ouvrage de 1200 pages, composé de plusieurs traités en prose, de quelques versions de Virgile et autres poésies, qui rassemblait en 1626 tous ses écrits déjà publiés et ceux qui étaient demeurés inédits. Je la cite. « J'avoue encore, après reprochable à bon droit, qu'à servir le grand Dieu, mon esprit est trop froid. » Voilà qui est, ce me semble, assez clair. Mademoiselle de Gournay mourra le 13 juillet 1645, à presque 80 ans, 3 ans après Richelieu et 2 après Louis XIII. Et quelques années avant sa mort, elle avait fait la connaissance du philosophe Lamothe le Vaillet, et c'est à ce dernier, devenu un ami, qu'elle confie dans son dernier testament sa correspondance et l'ensemble de son œuvre. Et c'est donc à Lamothe le Vaillet qu'on doit ses publications. Alors, un dernier voyage dans l'espace-temps, d'un bon siècle cette fois, nous permet de rejoindre notre troisième femme remarquable, Olympe de Gouges, 1748-1793, une humaniste révolutionnaire. Il était une fois la jeune fille d'un maître drapier de Montauban, Anne Olympe Mouisset, qu'on considérait comme la plus belle femme de la cité huguenote. Cette famille de la haute bourgeoisie montalbanaise était en relation assez étroite avec celle des Lefranc de Queix de Pompignan, nobles locaux dont l'aîné de la famille occupait de père en fils l'importante charge de premier président de la cour des aides. Et le maître drapier est le précepteur du fils aîné, Jean-Jacques Lefranc, futur marquis de Pompignan, qui, à l'âge de 5 ans, est lui-même le parrain d'Anne Olympe lors de son baptême. Les jeunes gens se connaissent donc depuis l'enfance. L'âge et le goût formèrent entre eux une douce sympathie dont les progrès furent dangereux. Le marquis, emporté par l'amour le plus violent, avait projeté d'enlever ma mère et de s'unir avec elle dans un climat étranger, racontera Olympe par la suite. Et lorsque les parents du jeune homme s'en aperçoivent, ils font tout pour empêcher cette union, un jeune noble ne pouvant décemment épouser une jeune bourgeoise. Aussi amie soit-il. Anne Olympe Mouisset est aussitôt mariée au boucher Pierre Gouze, et ce n'est que plusieurs années plus tard, elle a déjà plusieurs enfants, que le jeune marquis, à présent homme de lettres renommé, revenu à Montauban, dont il avait été éloigné par sa famille, va devenir son amant. Et de cette passion irrépressible naîtra à Montauban le 7 mai 1748 Marie Gouze, qui va avoir le nom de son père putatif. Comme la grande Louise Michel, Olympe est donc ce qu'on était convenu d'appeler, avant que nos mœurs se libèrent de ces antiques préjugés, une bâtarde. Mais loin de vivre cette bâtardise comme un boulet, elle s'en montrera particulièrement fière et la sublimera en faisant le ressort de son exigence, de son existence originale, comme l'écrit son biographe Olivier Blanc, qui ajoute que, rejetée à la fois par la bourgeoisie et par l'aristocratie, victime des stupides principes sociaux de l'époque, Olympe appartiendra finalement à toutes les classes de la société et s'appliquera toujours, comme on le verra, à défendre les plus faibles. Pourtant, au contraire de nos deux autres femmes remarquables, et bien que sa propre mère ait reçu, elle, une éducation plus raffinée que la moyenne des petites bourgeoises de province, son instruction à elle, Olympe, s'avère négligée. Elle le dit elle-même. « J'ai reçu une éducation comme on en aurait donné du temps du grand Bayard, et le hasard me place, privé de lumière dans le siècle le plus éclairé. Je sais donc peu de choses. Je crois, sans m'abuser sur mon compte, que le plus grand reproche que l'on peut me faire est de ne savoir pas l'art d'écrire avec l'élégance qu'on exige aujourd'hui. » Écrit-elle, modeste pour une fois, vous verrez qu'elle ne l'est pas toujours, dans la préface de sa première pièce de théâtre, « L'homme généreux » en 1786. Mais persuadée d'être la fille naturelle d'un écrivain réputé, académicien en 1759 et l'un des plus féroces anti-philosophes, ce qui lui attirera d'ailleurs l'hostilité particulière de Voltaire, Olympe travaille hardiment à surmonter ses faiblesses, s'exprimer avec correction et apprendre à maîtriser la langue. En 1765, elle a 17 ans, on la marie avec un certain Louis-Yves Aubry, officier de bouche de l'intendant de la Généralité, jeune homme pour lequel elle ne présente aucune attirance, mais qui a l'heureuse idée de décéder à la fin de l'année 1766, quelques mois après la naissance de leur fils, Pierre Aubry, qui devait devenir à 20 ans officier dans l'armée de la Révolution. Et c'est sans doute cette plate expérience conjugale qui lui procurera, en 1791, dans les fameux droits de la femme et de la citoyenne dont nous allons parler tout à l'heure, l'idée de substituer au mariage traditionnel, qu'elle considère comme le tombeau de l'amour et de la confiance, un, je cite, « contrat d'union de l'homme et de la femme beaucoup moins contraignant, où les partenaires, cédant à leurs inclinations particulières, auraient des liaisons amoureuses en parallèle et des enfants avoués d'autres lits. » Et la jeune veuve, qu'on dit aussi belle que sa mère, va se consoler très vite de cette disparition, occupée d'une part à élever son petit garçon et d'autre part, prétend-on, à rattraper le temps perdu. On lui prête ainsi plusieurs amants, dont un certain Jacques Biétrix de Villard de Rosières, d'une riche famille lyonnaise, qu'elle finit par suivre à Paris, où l'attend une place de haut fonctionnaire au ministère de la Marine, et il semble que cette liaison durera à peu près jusqu'à la Révolution, où leurs chemins se séparèrent pour raisons politiques. Elle fréquente alors le salon de Madame de Montesson, épouse morganatique du duc d'Orléans, le cousin du roi Louis XVI, qui possédait un théâtre privé dans son hôtel parisien. Ses meilleurs amis, que d'aucuns prétendront sans preuve avoir été aussi ses amants, sont alors Louis-Sébastien Mercier, auteur dramatique et chroniqueur, et le poète libertin, libre penseur, ennemi du mariage et militant révolutionnaire Michel de Cubières, co-créateur en 1776 de la fameuse loge des Neuf Sœurs, à laquelle appartinrent entre autres Champfort, Benjamin Franklin, Joseph Vernet et Voltaire lui-même. Et loge dont un certain nombre de membres vont jouer un rôle très important au début de la Révolution. Dès le début des années 1780, Olympe, persuadée d'avoir hérité du génie littéraire de son père naturel, se met à écrire des pièces de théâtre. En 1784, elle assurait tenir en réserve une trentaine de pièces manuscrites, dont 10 ne lui semblaient pas dépourvues de qualité, selon ses propres termes. Parmi celles-ci, « Les amours de Chérubin » ou « Le mariage inattendu de Chérubin », tentative de suite du « Figaro » de Beaumarchais que la critique de l'époque trouva pleine d'inventions, de traits gais et d'allusions piquantes. Mais Beaumarchais crie au scandale, au vol et à l'imposture et fait jouer ses relations pour empêcher que cette pièce soit montée. Décidé à faire reculer les limites imposées au rôle social et intellectuel des femmes de son temps, Olympe se met en tête de faire jouer une de ses pièces par la Comédie française, pas moins, tenue pour le premier théâtre de l'Europe. Elle y parvient presque en juin 1785 avec Zamore et Mirza ou L'heureux naufrage, une pièce qui dénonce l'esclavage. Mais elle a de puissants ennemis parmi les comédiens et l'affaire tourne court, débutant une querelle qui durera pas moins de 4 ans, la pièce n'étant jouée finalement que le 28 décembre 1789, donc après la Révolution, sous un nouveau titre, L'esclavage des nègres ou L'affreux naufrage, devant un millier de personnes réunies dans le tout nouveau théâtre de la Nation, l'actuel Odéon, qu'on voit ici sur cette illustration. Mais la mauvaise volonté des acteurs et le scandale provoqué par les colons et leurs partisans rendent cette représentation inaudible et la pièce est retirée au bout de 3 séances. Olympe rage de constater que le peu de femmes auteurs soit si peu considérées. On raconte même qu'au cours d'un voyage en diligence, elle entend un inconnu prétendre qu'il connaît très bien la fameuse Olympe de Gouges, qu'il sait de manière certaine qu'elle ne sait même pas lire, et que c'est quelqu'un d'autre, un homme bien sûr, qui écrit les pièces qu'elle signe. Et voici ce qu'elle lui rétorque, toujours aussi modestement. « Monsieur, j'ai écouté vos sots propos avec le calme d'un philosophe, le courage d'un homme et l'œil d'un observateur. Je suis cette même Olympe de Gouges que vous n'avez jamais connue et que vous n'êtes même pas fait pour connaître. Profitez de la leçon que je vous donne. On trouve communément des hommes de votre espèce. Mais apprenez qu'il faut des siècles pour faire des femmes de ma trempe. » Olympe dresse d'ailleurs d'elle-même un portrait moral et physique qui nous permettra de la connaître un petit peu mieux. « Je ne puis sympathiser qu'avec des personnes véritablement honnêtes. J'abhorre les hommes faux, je déteste les méchants, je fuis les fripons, je chasse les flatteurs. Et on peut juger par là que je suis souvent seul. Je ne m'ennuie pas avec moi-même, je ne crains pas la contagion. » Quoi qu'il en soit, une pièce s'attaquant 4 ans avant la Révolution française à l'institution de l'esclavage, inaltérable source de profits colossaux, ne pouvait qu'attirer des ennuis à son auteur. Et d'ailleurs, même après 89, peu de personnalités révolutionnaires prendront fait et cause pour le mouvement abolitionniste qui, venu d'Angleterre, s'était groupé en France autour de Jean-Pierre Brissot de Varville, la Société des Amis des Noirs, à laquelle participèrent entre autres Mirabeau, Lafayette, Condorcet, le duc de La Rochefoucauld. Et parmi les femmes qui y militèrent, Brissot cite Olympe de Gouges, encore plus célèbre par son patriotisme et son amour de la liberté que par sa beauté et plusieurs ouvrages écrits parfois avec élégance, toujours avec une noble énergie. Admise dans notre société, les premiers essais de sa plume furent consacrés aux malheureux que tous nos efforts ne pouvait arracher à l'esclavage. Il y avait du courage chez Olympe de Gouges à plaider leur cause au moment où le plus violent orage éclatait contre leurs défenseurs. Olympe de Gouges communiqua le feu de son patriotisme à d'autres personnes de son sexe et fonda ces sociétés populaires où les femmes portaient un enthousiasme pour la liberté digne des compagnes des hommes qui venaient de conquérir la leur. Et en effet, l'écriture dramatique, délaissant l'écriture dramatique, Olympe est de plus en plus engagée dans la lutte politique et sociale. Admiratrice du Rousseau du contrat social, ennemie mortelle de l'esclavage sous toutes ses formes, elle se met à lutter contre toutes les injustices, tous les asservissements, avec sa seule écriture pour arme. C'est d'abord, dès novembre 1788, une lettre au peuple au projet d'une caisse patriotique par une citoyenne, où elle émet l'idée d'un impôt volontaire, qui suscitera 10 mois plus tard une vague de dons patriotiques à l'Assemblée nationale nouvellement constituée. Ainsi, le 17 septembre 1789, une délégation de citoyennes de Paris, pour la plupart femmes d'artistes ou artistes elles-mêmes, telle leur meneuse, la dessinatrice Adélaïde Castellas-Moite, viendra déposer à l'Assemblée nationale, se dépouillant des 20 ornements du luxe, un lot de bijoux qu'elle rougirait de porter quand le patriotisme en commande le sacrifice. En décembre 88, ce sont ces remarques patriotiques, ambitieux programme de réformes sociales et économiques, qui effraya les riches et la cour. Jugez-en. Dans une telle calamité, baron, comte, marquis, duc, prince, évêque, archevêque, éminence, tout doit être citoyen. Tous doivent donner l'exemple de cet amour patriotique au reste de la nation. Le commerce est écrasé, une quantité innombrable d'ouvriers sont sans état et sans pain. Tout est arrêté. Le riche impitoyable cache son argent, vil instrument de sa cupidité. Ses trésors dans l'inaction, quel bien peuvent-ils faire à personne? C'est à l'État qu'il faut les offrir. Elle s'adresse directement au monarque, lui soumettant des idées. Je la cite. « Un impôt aussi sage qu'utile serait celui qu'on pourrait créer sur la servitude. Plus un maître aurait de valets, plus son impôt serait fort. On devrait créer encore un impôt sur le nombre de chevaux, des voitures, des armoiries. Un impôt sur la peinture et la sculpture ne serait pas déplacé. Le peuple ne se fait ni peindre, ni sculpter, ni décorer ses appartements. » Et elle va même plus loin, s'inspirant des thèses de Morelli qui, dès 1755, prônait une sorte de communisme agraire avant la lettre. Elle souhaite que le gouvernement donne toutes les terres en friche du royaume à des sociétés ou à chaque particulier la portion qu'il pourra cultiver. Son ami le chevalier de Cubières remarque à son sujet, avec peut-être un petit pincement de jalousie, « L'amour de la patrie succède à l'amour. » Oui, le patriotisme assure tes sentiments, l'empire qu'autrefois obtenait tes amants. Au 1er mai 1789, vous vous en souvenez, Louis XVI convoque à Versailles les États généraux, assemblée représentative des trois ordres de la nation, clergé, noblesse et tiers états. Olympe s'empresse de s'installer à Versailles pour y composer une brochure intitulée Pour sauver la patrie, il faut respecter les trois ordres. C'est le seul moyen de conciliation qui nous reste. Le 17 juin, le tiers-État, en conflit avec les deux autres ordres, se constitue Assemblée nationale. Le roi réagit aussitôt en faisant fermer la salle où se réunissaient les députés, qui se réfugient alors dans une sorte de gymnase, une salle de jeu de paume, où, le 20 juin, il prononce le fameux serment du même nom, de ne pas se séparer avant d'avoir donné une constitution à la France. Le 9 juillet, ils prennent le titre d'Assemblée nationale constituante. Olympe écrit alors deux lettres au roi, une épître dédicatoire l'exhortant à mettre en œuvre les réformes nécessaires, et le 11 juillet, un texte intitulé « Séance royale » qu'elle tente, vainement bien entendu, de lui remettre en main propre, et qu'elle fait distribuer ensuite à 3000 exemplaires, où elle l'engage à abdiquer au plus vite. Le 14, vous savez tous ce qui est arrivé. Alors, j'ai parfaitement conscience, en faisant un tel raccourci historique, de donner une importance tout à fait excessive au rôle réel d'Olympe de Gouges dans la suite des événements. Ses écrits n'ont pas pris la Bastille, nous en sommes d'accord, mais je veux simplement montrer que Olympe, et dans ces années 88-89, au cœur de l'actualité, aussi active avec sa plume et avec ses mots que ses camarades insurgés avec leurs fusils et leurs fourches. Pas plus, bien sûr, mais pas moins. Le 11 septembre 89, Olympe a déjà adressé à l'Assemblée nationale pas moins de 12 lettres ou mémoires, textes politiques enthousiastes, brouillons et parfois naïfs, mais souvent pertinent. Mirabeau, pour qui, tant que les femmes ne s'en mêlent, il n'y a pas de révolution véritable, l'encourage dans cette voie. Jusqu'ici, j'avais cru que les grâces ne se paraient que de fleurs, mais une conception facile, une tête forte, ont élevé vos idées, et votre marche, aussi rapide que la révolution, est aussi marquée par des succès, lui écrit-il. Et le même Mirabeau déclarait à son propos, « Si cette femme n'avait pas des fusées dans la tête, elle nous dirait parfois d'excellentes choses. » Et il ajoutait, « Nous devons à une ignorante de grandes découvertes. » Ignorante, c'est elle-même qui le disait, vous vous en souvenez. En 1790, Olympe s'installe à Auteuil, non loin de Madame Helvétius, la veuve du grand philosophe athée, qui était mort en 1771, et dont elle fréquente le salon depuis la fin des années 1770. Non loin de la résidence de campagne du couple Condorcet, chez qui se rencontraient de nombreux intellectuels sympathisant à la fois des Amis des Noirs et de la cause féministe, tels Mirabeau, Mercier, Thomas Paine et l'institutrice et écrivaine anglaise Mary Wollstonecraft. Wollstonecraft, qui publierait en 1792 une défense des droits des femmes. Une association les réunit tous sous le nom de Club de la Révolution, une sorte de centre de communication où tous les citoyens bien intentionnés pourront puiser de nouvelles connaissances et jouir des charmes d'une conversation instructive, une sorte donc d'université populaire, comme ici, avant l'heure, qui pouvait grouper jusqu'à 500 auditeurs et auditrices dans l'ancien cirque d'Orléans au centre des jardins du Palais Royal. Et même après la tentative de fuite de Louis XVI et son arrestation en juin 1791 à Varennes, elle demeure, comme Mirabeau, politiquement favorable à une monarchie constitutionnelle, ce qui lui vaudra, bien entendu, des critiques très hostiles des deux côtés de l'échiquier politique, auxquels elle répond, sans se départir de son humour cinglant, « Les uns veulent que je sois aristocrate. Les aristocrates prétendent que je suis démocrate. Je me trouve réduite comme ce pauvre agonisant à qui un prêtre rigoureux demandait à son dernier soupir « Êtes-vous moliniste ou janséniste ?»« Hélas !» répond le pauvre moribond, « je suis ébéniste. » Comme lui, je ne connais aucun parti. Le seul qui m'intéresse vivement est celui de la patrie, celui de la France. Et en septembre 1791, au moment où Louis XVI prêtait serment à la Constitution enfin rédigée, constatant que l'Assemblée n'a quasiment rien fait pour les femmes, ne leur ouvrant même pas l'accès aux urnes, Olympe met la dernière main à sa déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Femme, réveille-toi. Le tocsin de la raison se fait entendre dans tout l'univers. Reconnais tes droits. L'homme esclave a multiplié ses forces, a eu besoin de recourir aux tiennes pour briser ses fers. Devenu libre, il est devenu injuste envers sa compagne. Ô femme, femme, quand cesserez-vous d'être aveugle? Quels sont les avantages que vous avez recueillis de la Révolution? Ce sexe, autrefois méprisable et respecté, est devenu, depuis la Révolution, respectable et méprisé. Et prenant un à un les 17 articles de la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens, elle les réécrit intégralement au féminin pour en étendre les principes aux femmes. Puisqu'elles peuvent être responsables d'un délit et punies par la loi, elles doivent être également électrices et éligibles. Ces dispositions, si elles reçoivent le soutien d'un Condorcet, d'un Vergniaud, qui se réclame de Diderot, notamment sur la question du divorce, rencontre évidemment, on s'en doute, une très forte opposition. Un certain Sylvain Maréchal, député jacobin, déposera même un projet de loi portant défense d'apprendre à lire aux femmes. C'est écrit. Le poids des habitudes et des préjugés imposés tout au long des siècles par l'Église pèsera malheureusement encore très lourd, retardant l'évolution des mentalités encore pendant longtemps. Elle en est d'ailleurs pleinement consciente. À la lecture de ce bizarre écrit, je vois s'élever contre moi les Tartuffes, les Bégueules, le clergé et toute la séquelle infernale. Et d'Olympe toujours, avec l'humour décapant qui la caractérise, ce qui m'encourage à revenir à mes miracles patriotiques, c'est que l'athéisme m'assure que je n'ai point, comme Jeanne d'Arc, à redouter la Sainte Griade. Et celle qui écrivait cela en 1791, il n'y aurait encore qu'une autre menace tout aussi tragique était suspendue au-dessus de sa tête, c'est le cas de le dire, la lame affûtée du docteur Guillotin, qui ne tarderait pas, hélas, à la rattraper. Lorsqu'à la fin de l'été 1792, les massacres de septembre donnent un sanglant aperçu de ce qu'on allait appeler par la suite la terreur, Olympe s'insurge, fidèle à sa philosophie humaniste, dont elle ne démordra pas. Le sang, disent les féroces agitateurs, fait les révolutions. Le peuple, malgré lui, était entraîné dans le crime. L'on égorgeait impunément des milliers de citoyens, dont la plupart étaient coupables, il faut bien le croire, mais citoyens. La vie de l'homme est-elle si peu de chose aux yeux de l'humanité qu'on ne daigne pas examiner pourquoi on la lui ravit? Quand l'Assemblée constituante a engagé tous les gens de lettres à faire des recherches sur le code pénal afin d'abroger la peine de mort, même sur les criminels, s'attendait-il que dans une révolution opérée par les lumières de la philosophie, au bout de 4 ans, les Français donneraient la mort sans relâche pendant 3 jours et 3 nuits à leurs concitoyens? Girondine de cœur et d'esprit, elle prend parti publiquement au moyen d'affiches qu'elle fait placarder dans tout Paris. Elle n'y va pas de main morte. D'abord contre Marat, le boutefeu Marat, fameux agitateur, destructeur des lois, ennemi mortel de l'ordre, de l'humanité, de sa patrie, atteint et convaincu de vouloir introduire en France une dictature et de menacer sans cesse la Convention nationale de son entière dissolution. Marat vit libre dans la société dont il est le tyran et le fléau. Vous voyez qu'elle ne mâche pas ses mots. Et contre Robespierre, tu te dis l'unique auteur de la Révolution? Tu n'en fus, tu n'en es, tu n'en seras éternellement que l'opprobre et l'exécration. Que veux-tu? De qui veux-tu te venger? À qui veux-tu faire la guerre? Et de quel sang as-tu soif encore? De celui du peuple? Tu voudrais te frayer un chemin sur des monceaux de morts et monter par les échelons du meurtre et de l'assassinat au rang suprême? Grossier et vil conspirateur. Là, elle s'attaque à gros morceaux, comme on dit, et elle le sait. Elle l'écrit à Brissot en novembre. Je sais, de bonne part, qu'on a juré ma perte. Je m'y attends et je ne crains rien. Soutenu par mes vertus civiques, rien ne peut me décourager. Et malgré tout, toujours hostile à la peine de mort, elle propose en décembre, encore une fois, à l'Assemblée, d'assurer elle-même la défense de Louis Capet lors de son procès qui va s'ouvrir. On lui refuse, évidemment. Et à plusieurs reprises, elle est l'objet de tentatives d'intimidation musclées. En juin 1993, se sentant de plus en plus menacée, elle rédige son testament politique. Je m'offre, pour victime, aux monstres avides du sang humain, si ma mort peut apaiser leur rage et rendre la Convention nationale à sa splendeur. Vous cherchez le premier coupable? C'est moi. Frappez, j'ai tout prévu. Je sais que ma mort est inévitable. Je lègue mon cœur à la patrie, ma probité aux hommes, ils en ont besoin, mon âme aux femmes, mon désintéressement aux ambitieux, ma philosophie aux persécutés, mon esprit aux fanatiques. Le 20 juillet 1793, Olympe est en train de chercher un afficheur pour sa dernière production, Les Trois Urnes ou Le Salut de la Patrie, dans laquelle elle prône un vote dans chaque département français de façon à ce que le peuple puisse choisir lui-même entre les 3 types de gouvernement, républicain, fédéral ou monarchique. Elle est aussitôt arrêtée et emprisonnée. La démocratie a des limites. À partir de là, les choses vont très vite. En cet automne 1793, la terreur est bien enclenchée. Le 28 octobre, Olympe est transférée à la conciergerie et mise au secret. Le 2 novembre, elle comparaît au tribunal révolutionnaire et est condamnée au prétexte d'avoir voulu, par son affiche des Trois Urnes, remettre en question la République une et indivisible. Le lendemain, 13 Brumaire en 2, elle est guillotinée. Rappelez-vous cette virago, cette femme, homme, l'impudente Olympe de Gouges, qui la première institua des sociétés de femmes et qui, abandonnant les soins de son ménage, voulut politiquer. Vociférera le procureur Chaumette. La libération de la femme, ce serait pour plus tard. Alors, avant de terminer, en vous citant mes sources, je voudrais faire deux toutes petites observations. D'abord, vous aurez remarqué, sans doute, que nos trois héroïnes portent des noms à particules. Et donc, il faut, à mon sens, il faut en dire quelques mots. Parce qu'aucune n'est véritablement noble, vous l'avez entendu, ce qui n'a pour nous aucune importance, bien sûr, mais surtout, ce qui est important, c'est que chacune s'est délibérément choisi son nom. Et ça, c'est primordial. Ainsi, Christine de Pizan, qui mariée aurait dû s'appeler Christine Castel, a préféré conserver le nom de son père, savant de haut renom à l'époque. Et le choix ici est sans doute dû autant au désir d'honorer la mémoire d'un père érudit que de profiter un petit peu de sa célébrité. De son côté, Marie de Gournay s'appelait en réalité, vous vous souvenez, Marie Le Jarre, Jars, avec un S à la fin, et s'est elle-même attribué le nom du petit château de Gournay que son père avait acquis en Artois, qui ne lui a jamais appartenu en propre d'ailleurs et qu'elle a dû rendre à son frère dès qu'il est revenu de guerre. Et ce choix pourrait plutôt passer pour une façon de se démarquer de sa famille, tout en ravivant le souvenir du lieu où elle passa les semaines les plus marquantes de sa vie, vous vous en souvenez, aux côtés de son père d'alliance, Michel de Montaigne. Et enfin, Olympe, qui refuse de porter le nom d'un mari qu'elle ne s'était pas choisi, et qui déforme le patronyme du père putatif, Gouze, qui devient Gouge, Gouze, c'est G-O-U-Z-E, tout en s'appropriant la particule venue du supposé père naturel de Pompine. Et deuxième remarque, toutes trois furent accusées par leurs contemporains, on vient de le voir avec Olympe de Gouges, dans cette phrase, cette vocifération du procureur, sont accusées donc de ne pas avoir su rester à leur place. Et d'être devenus de ce fait des sortes de monstres mi-hommes, mi-femmes. Et on peut remarquer que le même reproche a été fait à maintes reprises à Louise Michel elle-même. Et donc pour mener à bien ce petit travail, j'ai utilisé les ouvrages suivants. Christine de Pizan, donc par Régine Pernoud, chez Calmant Lévy, celui de Françoise Autran, du même titre, chez Fayard. Marie de Gournay, itinéraire d'une femme savante, par Michel Fogel, chez Fayard. Et Marie-Olympe de Gouges, une humaniste à la fin du XVIIIe siècle, par Olivier Blanc, aux éditions René Viennet. Sur les trois, et de nombreuses autres bien sûr, comme vous pouvez le constater par la couverture, regard sur les Françaises 10e-20e siècle, publié chez Stock par Michel Sardes, bien qu'elle ne traite pas très bien Marie de Gournay à mon goût, ça c'est un aparté, et quelques articles par-ci par-là du coffret de 5 volumes de l'histoire des femmes en Occident, publié sous la direction de Michel Perrault et Georges Duby par les éditions Plomb dans la collection Timpus. Je vous remercie de votre attention.
Sur un fond d'illustrations fabuleuses. J'imagine le travail que tu as fallu pour trouver toutes ces illustrations.
J'en ai enlevé.
Tu as été enlevé, oui, effectivement, pour rentrer à peu près dans nos critères de temps. Je t'en remercie. À 9h30, il va y avoir la séance de cinéma, donc on peut prendre 3 ou 4 questions simplement si vous le désirez. Qui se lance?
Bonsoir. Oui, vous avez parlé notamment pour la de Gouges de tous les soucis qu'elle a pu avoir avec la jambe masculine. Est-ce que pour Christine de Pizan et Marie de Gournay, qui étaient quand même des femmes Par leur place, comme vous l'avez dit, elles ont eu à subir également des pressions ou autres.
Pas autant que Olympe de Gouges, bien sûr. On n'a pas vraiment de traces très précises. Je ne peux pas vous donner des anecdotes qui montreraient qu'elles ont subi des pressions. On peut imaginer qu'effectivement, il y avait un regard qui était posé sur elles, de leurs contemporains et de leurs contemporaines, qui n'était pas très favorable. On voit par exemple que pour Marie de Gournay, elle a appris à lire et à écrire contre l'avis de sa propre mère, par exemple. Ça, c'est une pression quand même, la mère. Après, ce sont des femmes qui, comme j'espère l'avoir montré, qui se sont donné l'autorisation, donné les moyens d'avoir une vie qui faisait qu'elle ne dépendait de personne, elle ne dépendait que d'elle. C'est aussi pourquoi j'ai choisi précisément ces deux-là. Donc des femmes qui ont vécu de leur plume, c'est vraiment des écrivaines professionnelles. Et pour Christine de Pizan, c'était vraiment la toute première, ou une des toutes premières.